Bonsoir, comment allez-vous ? 1, 2, 3, 4. Si j'ai le temps de compter jusqu'à 10 avant que le feu ne passe au vert, ça veut dire que j'aurai 10 de moyenne à mon examen. Quand je traverse le village de Locmaria, je mets toujours mes poussins dedans pour me protéger des mauvais sorts. Oui, même quand je suis à vélo. C'est vrai, c'est pas pratique. Je n'aime pas longer le cimetière la nuit. Pour rien au monde, je n'y rentrerai. Je ne vais pas au théâtre habillé en vert. Je ferme les volets la nuit de pleine lune. J'ai une pâte de lapin au fond de mon sac. Et une coupe avec du sel dans ma maison. Et un gris-gris contre le mauvais œil. Si je crois à tout ça, mais bien sûr que non. Mais peu importe, ça marche même quand on n'y croit pas.
France Inter. État d'esprit. Noël Bréham.
Bonjour Marie-Charlotte Delmas.
Bonjour Noël.
Alors Marie-Charlotte, vous êtes sémiologue, docteur en sciences du langage, spécialiste du folklore populaire français. Et comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, voici ce que vous écrivez sur votre blog. Je passe le plus clair de mon temps à ouvrir des boîtes pour savoir ce qu'il y a dedans. Une fois la boîte ouverte et le trésor découvert, la bibliothécaire décrit, classe, ordonne. La sémiologue cherche à comprendre comment ça marche. L'anthologiste choisit, partage, publie. Et la romancière vole au passage quelques éléments à rêve qui vont germer. Vous avez abandonné Marie-Charlotte Delmas pour quelque temps la fiction pour publier deux dictionnaires chez Omnibus, en fait deux volets d'un même dictionnaire, le dictionnaire de la France mystérieuse et le dictionnaire de la France merveilleuse. Vous avez travaillé pendant 20 ans ?
Un peu plus de 20 ans, oui.
Mais qu'est-ce qui vous a pris ?
J'adore ça, ça m'intéresse vraiment, je suis très très intéressée par les superstitions, par les croyances populaires, par les légendes. Ça m'a pris toute petite. Puis après une rencontre avec Claude Seignolle dont nous aurons l'occasion, je pense, d'en reparler.
Eh ben parlons-en tout de suite.
Alors, parlons-en tout de suite.
Alors d'abord, j'ai pas dit que dans ce dictionnaire, nous allons découvrir tout au long de l'heure des légendes, des croyances, des recettes, des mythes, des lieux, des menhirs, des fées, des lutins, le diable. Des herbes de la Saint-Jean, des potions, enfin c'est...
Tout, normalement. Tout.
On plonge là-dedans, comment ça s'appelle ? La sérendipité. On trouve ce qu'on ne cherche pas et on s'y délecte. Qui est Claude Seignolle, alors, puisque vous l'avez cité ?
Alors, Claude Seignolle est un écrivain de littérature fantastique qui s'est nourri des traditions qu'il a collectées, puisqu'il a également publié des livres de folklore, et il a commencé tout jeune, d'abord à fouiller les pierres, ensuite à fouiller les têtes des gens, et à ramasser comme ça des traditions, des superstitions, dont son fantastique, qui est absolument unique, et qui, j'en suis absolument convaincue, passera le temps, dont il a nourri un fantastique avec une langue animiste qui correspond tout à fait à ce fantastique. Et ce Claude Seignolle, il va avoir 100 ans dans quelques jours.
Oh.
Donc, s'il nous écoute, bon anniversaire Claude.
Alors, je vais vous faire plaisir, je crois, Marie-Charlotte Delmas, en vous faisant écouter la voix de Claude Seignolle.
J'aime les loups. J'ai trop vécu avec les loups. Un loup-garou ne peut être que le produit d'une mésentente avec quelqu'un qui peut le rendre loup-garou sans le toucher, c'est-à-dire avec le diable. Un sorcier du diable, c'est quelqu'un qui s'est mis en condition d'être damné. C'est un damné sur la terre pour des raisons qui nous échappent. Alors, dans le cas de la damnation, un malheureux type croyait dormir. Il avait même l'impression d'entrer dans un cauchemar. Mais en réalité, il commençait la première nuit de sa vie double. C'est-à-dire que le poil pousse aussitôt et... À mesure que le poil pousse sur l'avant-bras, le bras prend une indépendance animale et agit contre votre volonté. Être au milieu de tous ces loups, qui du reste m'observent depuis un moment d'un air indifférent, à part celui-là, parce qu'il me dit, si jamais tu viens trahir le plus grand secret que l'on connaisse sur les loups-garous et tu sembles le connaître, eh bien tu auras affaire à nous.
C'était un documentaire INA. Donc, c'est bien Claude Seignolle, vous l'avez bien reconnu ?
Oui, je l'ai bien reconnu. Et puis maintenant, moi, j'ai fait des séries d'entretiens avec lui. Il m'en a raconté des histoires. C'est un excellent conteur.
Mais nous sommes avec vous, Marie-Charlotte Delmas. Vous avez, dans ce dictionnaire de la France mystérieuse, lettre consacrée au loup-garou.
Parce qu'en fait, la France mystérieuse, ce sont toutes les croyances quotidiennes, populaires, liées aux fêtes, liées aux grandes cérémonies, aux grandes périodes de la vie, la naissance, le mariage, la mort, etc. Et également la sorcellerie. sorcellerie ordinaire, hein, de je tarie la vache de mon voisin en lui mettant un petit peu de rosée sous les pattes,
ah,
etc.
On va en parler de ça, on va en parler.
Voilà, sorcellerie ordinaire et... Le loup-garou, la lycanthropie, c'est une partie de la sorcellerie puisque c'est la transformation de l'homme en loup. Alors au Moyen-Âge, les récits sont pas encore trop diabolisés, donc on trouve quelques anecdotes, quelques récits, en particulier Marie de France au XIIe siècle avec le lait du bisclavré qui parle d'un seigneur qui toutes les semaines s'absente 3 jours et sa femme s'étonne et lui dit mais qu'est-ce que tu fais pendant 3 jours et il finit par lui avouer que il court le garou pendant 3 jours.
Qui c'est le garou, le loup, je sais ce que c'est.
C'est lui
le garou.
Ah, alors, c'est lui le garou. Alors, Marie de France nous explique ce que c'est qu'un bisclavré. Elle nous dit que ça vient du garouaf allemand. Garouaf qui donnera garou. Sauf que ce garouaf vient d'un... Alors, je suis pas germaniste, pardon pour l'accent et pour les germanistes, mais le werewolf. Et en fait, garou, ça veut déjà dire loup-garou. Ça veut dire homme-loup.
D'accord.
Donc nous, en français, quand on dit un loup-garou, en fait, on dit un loup-garou.
C'est un pléonasme.
Me suivez-vous.
D'accord.
Voilà.
Alors donc, le loup-garou, c'est un homme qui se transforme en loup 3 jours par semaine.
Alors,
ça fait pas mal,
au 12e siècle, 3 jours par semaine. Au 15e siècle, les héroïnes d'un livre très rigolo qui s'appelle Les Évangiles des Quenouilles, sont des femmes qui se retrouvent tous les soirs pour se raconter leurs évangiles, racontent quelques-unes de ces commères que, effectivement, leur époux se transforme en loup. Et puis, arrivé à la Renaissance, arrive l'époque des inquisiteurs, arrive l'époque de la grande chasse aux sorciers et aux sorcières. Et là, on va diaboliser ce loup-garou et ce seront désormais les sorciers ou les sorcières qui détiendront du diable cette peau de loup.
D'accord.
Et qui seront en loup-garou. Et il va y avoir, au XVIe siècle, nombre de personnes qui vont être brûlées, condamnées et brûlées, pour avoir mangé des enfants ou des gens sous la forme de loup-garou. Voilà.
Quelle est son activité au loup-garou ?
Le loup-garou, il erre, il chasse, il mange.
Ah, quand même. Alors, dans votre livre, Marie-Charlotte Delmas, donc La France mystérieuse, chez Omnibus, vous parlez à propos du loup-garou d'Ovide.
Oui, parce que ça commence par Ovide et par le roi Lycaon. Voulez-vous que je vous raconte rapidement l'histoire ?
Ah, volontiers.
C'est le roi Lycaon qui habite en Arcadie, donc qui n'est pas un très très gentil roi. Et un jour, Jupiter, Zeus, roi du ciel, de la terre et roi des dieux, regarde les hommes et se dit que cette race des hommes, elle est vraiment pas terrible parce qu'ils sont cruels, méchants et qu'il va falloir vraisemblablement les éliminer. En fait, il pensait que les humains seraient mieux que la race des géants qui les avaient précédés, mais c'était pas le cas. Et vous savez, quand les dieux veulent se débarrasser des humains, c'est simple, ils déclenchent le déluge. Et donc, Jupiter s'apprête à déclencher un déluge. Et auparavant, il réunit les autres dieux. Il leur fait un petit état des lieux. Et puis, au bout du compte, il leur raconte la visite qu'il va faire en Arcadie, où il rencontre le roi Lycaon. Donc, il se déguise en humain. Il arrive en Arcadie. Il rencontre des gens. Ces gens se mettent à l'honorer parce qu'il leur dit « Je suis Jupiter ». Ah, mon Dieu, c'est Jupiter. Tout va bien. Sauf que le roi Lycaon n'y croit pas, n'en veut pas. Et va essayer de le faire assassiner la nuit, n'y parviendra pas parce qu'on ne tue pas un dieu comme ça, mais le lendemain, fou de rage, il coupe un homme en deux, il en fait cuire la moitié et il fait rôtir l'autre moitié, et il amène ça à table à Jupiter.
Ah.
Jupiter rentre dans une colère jupitérienne, balance de la foudre et fait écrouler le palais, et le roi Lycaon va être obligé de s'exiler seul dans la forêt, des poils lui poussent, il a des pattes de loup, et il devient un loup-garou, et Lycaon, lycanthropie, qui veut dire homme, anthropos, lycos, homme-loup.
Donc voilà. En fait, la faute de Lycaon, qu'est-ce que c'est ? De ne pas avoir reconnu Jupiter comme
d'être méchant. Les punitions, ça sera le cas, on le verra peut-être des villes englouties, c'est-à-dire que la perversion, la méchanceté, le manque de charité sont dans des récits christianisés, ce qui n'est pas le cas d'Ovide au 1er siècle encore, mais dans des récits christianisés, subissent tous des punitions divines. Alors le déluge est une punition divine.
Et voilà. La transformation en loup-garou.
Et la transformation en loup-garou,
punition.
C'est une punition divine, parce qu'au 18e siècle, on avait encore en Normandie et en Vendée ce qu'on appelait des monitoires. Dès que quelqu'un avait commis un délit, le curé, 3 dimanches de suite, à l'église, lançait une excommunication en disant, je résume, si vous êtes le criminel ou si vous connaissez le criminel, merci de venir vous dénoncer. Et si au 3e dimanche, personne n'était venu dénoncer le criminel ou s'il n'était pas lui-même venu tout avouer, eh bien, tous ses complices et lui étaient transformés en loup-garou.
Ah.
allez là? Non, vous êtes sûr, hein? Pas de chat noir à l'horizon, hein? Pas de sel renversé sur la table? Pas de parapluie ouvert dans la maison? De pain à l'envers sur la table? Et la date? On n'est pas vendredi 13 aujourd'hui au moins. Alors c'est parti.
Nous allons continuer à évoquer ces superstitions et ces croyances avec vous, Marie-Charlotte Delmas, auteure du dictionnaire de la France mystérieuse chez Omnibus, après Doplemon, Home Soon.
I've been finding the time to be bored out of my mind. I've been walking for days. I don't have the time to play. You're kind of parlay. So won't you come home soon? Won't you come home soon? Never wish for you to go to roll down that old road. You're making my heart low, lost in that old world. You're the only one I'll ever fall. So won't you come home soon? Come home soon. Won't you come home soon? Won't you come home soon?
Sur France Inter.
Il y a des gens, vous savez, ils font des sorcelages, vous ne connaissez pas, des fois c'est des œufs, d'autres fois c'est des autres choses et tout ça. Je me rappelle qu'il y avait une famille et que toutes leurs bêtes sont mortes, leurs vaches, leurs cochons. Alors un beau jour, le monsieur s'est décidé, ils sont allés voir la devineuse, Madame Flora. Et elle leur a dit, vous savez, il y a votre plus près voisin qui vous a ensorcelé. Alors vous n'aurez qu'à regarder dans votre étable, le soir quand vous êtes parti au lit. Ces gens vont déposer des œufs. Alors, vous chercherez à tel endroit, vous en trouverez sous le fumier. Alors, ils ont trouvé ces œufs. Il y en avait un ou deux, j'en sais rien. Et vous les mettrez dans une chaussette, vous les mettrez dans la cheminée pour les faire sécher. Ça les a désensorcelés. Mais à partir de ce jour-là, ils n'ont plus de malheur dans leurs étables.
Voici ce qu'a entendu Marc Villemar en 1993 quand il faisait une enquête pour France 3 Limousin. Nous parlons justement avec vous, Charlotte Delmas, qui avait réalisé ces deux volumes du Dictionnaire de la France merveilleuse et du Dictionnaire de la France mystérieuse, édité chez Omnibus. Nous sommes dans la France mystérieuse, là, avec les envoûtements.
Ah oui, ça fait partie. Là, cette dame parle d'un maléfice qui s'appelle la charge, qui est un maléfice très connu et très varié, qui consiste à prendre un œuf, à mettre dedans des rognures d'ongles de la personne ou de la vache qu'on veut maléficier, etc. L'œuf, c'est un contenant qui est souvent utilisé, le crapaud aussi, mais l'œuf. Et alors, on mettait dedans tout un tas de
comme
choses et de la terre. Mais... oui, on le creusait. On le vidait et on met dedans soit des cheveux et des rognures d'ongles, c'est-à-dire l'essence de la personne qui, à travers ses cheveux et les ongles, continue d'exister. Soit on met ça dans l'œuf avec un petit peu de terre, ou alors les poils de la vache, ou alors... enfin, chacun fait sa mixture à sa façon et puis on place ça sous le fumier ou on place ça sous le seuil de la porte. Quand c'est une charge où il n'y a pas d'œuf qui risque de se casser, on met ça sous la porte et celui qui va passer le seuil va être envoûté. On a comme ça jusqu'au début du XXe siècle, et je dis au début parce que moi, mon corpus ne va pas plus loin que les années 20-30, mais on a énormément de témoignages de ce sorcelage, comme disait cette dame, cette sorcellerie ordinaire de tous les jours, où on n'a pas besoin d'avoir un sorcier dans le village. Tout le monde est un petit peu sorcier, et il y a toute une ribambelle de maléfices que j'énumère dans ce livre, et qui ressemble tout à fait à cela.
Alors nous, pour avoir ces histoires en 2017, nous avons votre dictionnaire, Marie-Charlotte Delmas, dictionnaire de la France mystérieuse. Autrefois, il y avait la veillée. Et vous racontez que chacun venait avec sa bûche autour du feu.
Oui, parce que si j'ai pu nourrir ces deux dictionnaires, c'est parce que au XIXe siècle, il y a des personnes de bonne volonté qui se sont rendues compte que toute cette mémoire allait disparaître et qu'il était temps d'aller la recueillir. Et pour aller la recueillir, très souvent, ils sont allés dans les veillées. Parce que avant l'électrification des campagnes, qui n'interviendra qu'à la fin du XIXe, dès que la nuit tombait en hiver, vers 5h de l'après-midi, la journée n'était pas complètement finie. Mais il fallait néanmoins s'éclairer et se chauffer. On est pauvre à la campagne. Donc, on se réunissait pour pouvoir économiser la chandelle et le feu. Chacun apportait sa bûche, effectivement. Et puis, on égrenait le maïs, on éboguait les châtaignes, on chantait, les femmes filaient, plus tard tricotaient, brodaient. Et puis, il y en avait un qui racontait des contes. Et puis, on se mettait à raconter ce que nous appelons, nous, des mémoras, c'est-à-dire l'anecdote vraie, entre guillemets. Ben, vous savez, Madame Untel, oh ben, on vous a pas dit ça, sa grand-mère. La Marie, mais oui, la Marie, ben, elle en a vu un de fantôme. Ah bon, elle en a vu un? Oui, mais alors c'était en sortant du cimetière, elle l'a vu, il est sorti, et puis il avait un os dans la main. Ah mais je la connais, cette histoire, oui, et voilà. Et ces histoires, de génération en génération, continuaient à passer d'une bouche à l'oreille et d'une oreille à une autre bouche, et au bout du compte, ils en ont recueilli. Donc ils ont recueilli des traditions, ils ont recueilli des chansons, ils ont recueilli ces mémoras, ces anecdotes comme celles que nous pouvons encore, nous, aujourd'hui, raconter autour d'une table. Voilà, donc c'est grâce à eux que ces livres existent, parce que tout cela a été publié dans des revues d'histoire locale, savantes, comme on disait encore au XIXe siècle, de ces... Alors, on les appelait pas encore folkloristes, on les appelait les antiquaires.
Ah bon ?
Et ensuite, ils s'occupaient d'antiquités, puis il y avait pas mal d'antiquaires. Et ensuite, on les a appelés les traditionnistes. Et puis, nous est venu ce mot anglais, folklore, qu'on écrivait en deux mots encore à la fin du XIXe siècle, connaissance du peuple.
D'accord. Voilà. Dans votre livre, c'est pas classé par région, c'est classé par thème. Mais un même thème est différent suivant les régions. J'ai l'impression, par exemple, peut-être parce que je suis un peu bretonne, mais que la Bretagne est riche. En histoire, d'abord, il y a la mer, et puis il y a les rochers, et puis il y a le gros temps, et riche en noyés, et riche en revenants, et riche en...
Alors, oui, la Bretagne est riche. Alors, je signale quand même qu'effectivement, toutes les superstitions que je donne ou les traditions sont localisées, datées.
Toujours.
Donc, on trouve toutes les provinces. Il se trouve que la Bretagne a été remarquablement bien collectée. C'est pas qu'elle est forcément plus riche. Peut-être l'est-elle, mais on ne le saura jamais. Mmh. Il y a des départements, des coins qui ont dû attendre le XXe siècle. Et même la deuxième partie du XXe siècle pour être collectée. Donc, effectivement, on n'a plus la même richesse. Mais c'est parce que vous vouliez parler des revenants.
Ah oui, alors je voudrais parler des morts qui embarquent, par exemple, entre Belle-Île et Quiberon. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Ah oui. Alors, il faut savoir que partout en France, depuis le Moyen-Âge et probablement bien avant, il faut que les choses soient très claires. C'est-à-dire, on vit, c'est bien. On meurt, c'est bien. À la mort... Il y a le corps d'un côté, il y a l'âme, l'esprit, on ne sait pas trop quoi, de l'autre. Et chacun doit aller bon vent. Donc, le corps, les paysans ont très peur des retournants, c'est-à-dire du corps. Et donc, du coup, on le coud dans un linceul. Le linceul, on va le mettre dans une caisse en bois. On va clouer la caisse en bois. On le met, on met de la terre, on met une pierre dessus.
On ne fait pas qu'ils reviennent.
On fait tout ça pour que les morts ne reviennent pas. On ne fait pas tout ça juste pour faire beau dans les cimetières. Mais tout ça, c'est pour empêcher les morts de revenir. Les morts doivent rester avec les morts. On dit que quand ils reviennent, alors en Bretagne en particulier, on dit qu'ils sont jaloux des vivants, qu'ils passent au-dessus d'eux et qu'il faut vraiment s'en méfier, qu'il y a des heures pendant lesquelles il ne faut surtout pas traverser les cimetières et des périodes durant lesquelles, à la Toussaint par exemple, il vaut mieux laisser les morts en paix parce qu'ils vont traverser comme ça les cimetières, etc. Ensuite, on a des morts dont on ne va pas retrouver le corps. Vous me parliez des noyés. Et ça, c'est un vrai problème, parce que là, pour le coup, le corps ne peut plus reposer dans une terre consacrée, le cimetière étant une terre consacrée. Donc, on n'est pas complètement sûr. Et voilà. Alors, a priori, comme il n'est pas en terre consacrée, il ne peut pas aller au paradis. Donc, on ne sait pas trop bien où il va aller, on ne peut pas l'enfermer, on peut pas. Donc, ces âmes du purgatoire, elles continuent d'errer comme ça, et de s'incarner dans des oiseaux, de s'incarner dans des bêtes. Et puis, alors, on a effectivement des bateaux fantômes qui traversent les mers, et on a des barques des morts. Et c'est sûrement cette barque dont vous me parlez, qui s'appelle Bag Er Maru. Donc, je ne sais pas si on dit, si vous savez si on dit Maru ou Maru en breton.
Ça moi, je dirais Maru ou Dame Dame, oui.
Bon, alors voilà, on va dire ça. Et donc, ce bateau, il ramasse les âmes des noyés entre Belle-Île et Quiberon, et il les amène sur une lande vers Carnac. Il y en a qui l'amènent encore plus loin. Il met les âmes dans des coquilles de noix. Ce sont des morts qui sont les deux patrons de ce bateau. Et c'est un bateau des âmes, et on en trouve assez rarement en France, mais il n'y a qu'en Bretagne où on pense qu'après la mort, il y a une mer intérieure sous la terre qu'il va falloir traverser. Et on ne l'a pas retrouvé dans d'autres provinces. C'est une, alors qu'on a plusieurs témoignages au XIXe siècle de Bretons qui nous racontent cette mer intérieure.
Pas de jaloux, nous parlerons des histoires des autres régions, Marie-Charlotte Delmas, avec vous, juste après Claude Nougaro, L'amour sorcier.
Je suis l'amour sorcier. Gué, 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 ma tête est oiseau. Gué, 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 je suis l'amour sorcier. Gué, 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 mon corps est taureau. J'ai ce qu'il vous faut. Gué, 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 pour vous désaltérer. Gué, 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 me ferez ruisseau. Gué, 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 et je m'enflammerai. Gué, 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 pour vous tenir chaud. Je suis l'amour sorcier. Gué, 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 ma tête est oiseau. Gué, 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 je suis l'amour sorcier. Gué, 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 mon corps est taureau. Venez à moi, venez par milliers. La terre et le ciel, on va les marier. Mais je vous fais peur, et vous préférez. Lancez vos sagues, lancez vos sagues. Gué, 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 j'ai un moral d'acier. Gué, 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 je vous guérirai. Gué, 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 mesdames et messieurs. L'amour, c'est pas sorcier.
Et
état d'esprit sur France Inter.
Avec Claude Nougaro, nous avons quitté la Bretagne pour rejoindre la région de Toulouse, qui est votre région, je crois, Marie-Charlotte Delmas.
Et oui, je suis native de Toulouse et le papa de Claude Nougaro était chanteur au Capitole avec mon grand-père. Et mes parents étaient artistes lyriques et maman était amie avec Claude et nous disait toujours, il était désolé son père, il disait « j'en ferai jamais rien de Claude, j'en ferai jamais rien
». Comme quoi.
Comme quoi.
Nous avons parlé du Nougaro, des revenants, des morts, des noyés. Des sorts. Parlons de quelque chose d'un petit peu plus léger, les fées, les lutins, les gobelins.
On les connaît au travers de la fiction, de la fantaisie aujourd'hui, du cinéma, et on sait moins que nos ancêtres y ont cru jusqu'au, allez, on va dire, fin du XVIIIe siècle, mais beaucoup encore de personnes y croyaient à la fin du XIXe siècle, dans les campagnes.
Les fées, les lutins, c'est ce qu'on appelle les esprits de la nature.
Alors, on appelle ça les esprits de la nature, on appelle ça le petit peuple. En fait, il semblerait que la croyance aux fées, les fées, elles changent d'une province à l'autre. Comme tous les êtres surnaturels, elles sont ambivalentes, vraiment, parce que diabolisées. Dès qu'une religion arrive, les anciennes divinités deviennent des démons. Donc, on pense que les fées symbolisent ou représentent des avatars de divinités gallo-romaines, peut-être même beaucoup plus ancienne, gauloise, mais en tout cas, on n'a pas suffisamment de documentation, on ne sait rien sur ces époques, donc on ne peut pas sur les Gaulois, donc c'est assez compliqué d'avoir à tirer des conclusions. Et les lutins sont vus comme des petits démons, en fait.
Mais alors donc, puisque nos grands-parents croyaient encore aux fées et aux lutins, c'était des bons ou des mauvais? Parce qu'à vous entendre, Marie-Charlotte Delmas, on a l'impression qu'ils ne sont pas si sympas que ça. Est-ce qu'elles avaient une baguette magique, par exemple?
Non, pas du tout. Je ne sais pas. Il y a des bonnes fées et des mauvaises fées. Je ne suis pas sûre qu'ils les voyaient, mais ils en avaient entendu parler. Ils apportaient des offrandes. Par exemple, ces fées, ou ces lutins d'ailleurs, habitent très souvent dans les mégalithes, les dolmens, les menhirs, ou des pierres, qui sont des pierres remarquables, qui sont un peu curieuses. Il y a des fées marines, les sirènes par exemple, ou les dames d'eau. Il y a des fées qui sont dans les arbres. Il y a des fées qui sont plus dans les pierres. Enfin voilà, c'est très diversifié. Et on leur porte des offrandes. Par exemple, on va porter une offrande à la grotte de la fée un tel ou un tel. Ou on va porter une offrande au lutin, dont on dit il est sous ce dolmen. Donc on va lui porter une petite pièce d'argent. Il y a même un lutin dont on dit qu'il... on peut lui porter
les couteaux à aiguiser.
Les couteaux à aiguiser, les faux, et qu'il les aiguise, on lui met la pièce et on lui pose devant sa...
Attendez, oui, dans votre livre, vous le racontez en détail. On met devant chez lui son couteau avec de l'argent.
Oui.
Et le lendemain, on retrouve le couteau aiguisé.
Oui, c'est la lame de faux.
À la faux, et l'argent a disparu. Mais si on n'a pas mis assez,
oui,
c'est pas bien aiguisé.
Et si on met trop, il rend la monnaie.
C'est génial.
Voilà, il faut mettre... Alors moi, je pense qu'il s'agit là d'une offrande inversée. L'inversion est assez courante en folklore. Il est possible que des offrandes aient été portées à ce dolmen ou que l'on ait retrouvé dans ce dolmen des objets et qu'après, la légende se soit greffée un petit peu là-dessus. C'est souvent le cas. C'est le cas pour les dragons, par exemple. Les dragons, on y croit fort, mais on y croit parce qu'on a retrouvé des ossements de ce rien. Donc, c'était des ossements de dragons. Alors, on sait qu'il n'y en a plus, mais ils ont existé jadis. Voilà.
Donc, les anciens croyaient aux lutins. Les anciens croyaient aux fées, à qui ils faisaient des offrandes aussi.
Oui, bien sûr, des bouts de laine. Les fées, ce sont vraiment des avatars de divinités anciennes. Et il y a énormément de fontaines qui s'appellent les fontaines aux fées, d'arbres qui s'appellent des arbres aux fées. À Don Rémy, par exemple,
chez Jeanne d'Arc.
L'arbre duquel Jeanne d'Arc entend ses voix s'appelait l'arbre aux fées. Et pendant le procès, il est dit que le curé allait tous les ans chasser les mauvaises fées en les excommuniant autour de cet arbre aux fées, et la fontaine qui était près de cet arbre, ancienne fontaine sacrée, s'appelait la fontaine aux fées Notre Seigneur, avait-on rajouté, puisque dans le processus de christianisation des campagnes, toutes les fontaines aux fées, les dolmens, les menhirs, les arbres, etc., tout cela a hérité de saints, ou de croix, ou de statues, ou de noms. Par exemple, la fontaine qui soignait les furoncles, c'est-à-dire les clous, s'est vue appelée Fontaine Saint-Cloud, celle qui soignait les yeux, Fontaine Saint-Clair, etc., etc.
Donc le christianisme a balayé cette concurrence, en fait.
Et on peut pas balayer, en fait, une religion ou une culture. On ne peut procéder que par ce qu'on appelle acculturation. acculturation, c'est-à-dire glisser sur l'autre. Partout où il y a des temples et où les gens vont dans les temples de la nature, etc., on va bâtir une chapelle, on va bâtir une église.
On camoufle.
Donc les gens vont continuer à y aller. On voit bien dans les conciles jusqu'au 10, 12e siècle, dans les canons qu'on demande aux évêques, qu'eux-mêmes demandent aux curés de paroisse, que les gens arrêtent d'aller avec des chandelles près des pierres levées, arrêtent d'aller vers les sources sacrées, les arbres sacrés, etc. On est au 10e siècle. Sauf que les villes sont christianisées un peu plus rapidement, mais pas les campagnes. Et de toute façon, dans les campagnes, à la fin du 19e siècle, on demande à un brave paysan qui va faire une offrande pour ses vaches, on lui dit « Mais vous savez qui est le fils de Dieu ?» Et il répond « Oui, Saint Cornélie. » Parce que lui, c'est Saint Cornélie en Bretagne. Et que lui, dans le Morbihan, c'est lui qui l'intéresse. Le reste, ça n'intéresse pas. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut demander aux fées ?
Il y en a qui on peut demander un amoureux. Ce sont surtout, on leur demande pas grand chose, elles donnent. Alors il y a des fées qui font des cadeaux magiques. Très étrangement, il y a deux espèces de fées dont la geste est quasiment identique en Bretagne, dans les Côtes d'Armor et au Pays Basque. D'un côté, ce sont les fées des Houles et les Margot la fée. Et de l'autre côté, ce sont les Laminac. Ces deux espèces de fées ont à peu près la même geste. Elles font des cadeaux. Alors, elles offrent, par exemple, un pain qui ne diminue pas, même si l'on en mange. Mais si, par contre, le paysan qui a reçu ça en parle à quelqu'un, c'est fichu et le pain moisi, etc. Ou une poule qui pond des œufs d'or, ou voilà, le conte est un petit peu passé par là. Ou un fuseau qui donne de la laine, qui ne s'arrête jamais.
On retrouve les contes, en fait.
Alors, il est très difficile. Moi, j'ai travaillé sur les légendes, c'est-à-dire des objets narratifs très localisés, ouais, datés, tout ça. Mais le conte, c'est « Il était une fois ». Là, la légende, c'est un petit peu plus parce que c'est le mémorat, c'est arrivé à.
Alors ça, les fées sont sympas puisqu'elles donnent des pains qui ne s'épuisent pas. Mais il y a aussi des personnages qui font peur. Le croque-mitaine pour les enfants qui a des grandes bottes, il met les enfants dans les bottes et puis alors, quand il a une minute, il les mange.
Alors les croque-mitaines, c'est très intéressant, les croque-mitaines, parce que c'est le dernier avatar des divinités. Il y a des croque-mitaines de l'eau, des croque-mitaines de l'air, des croque-mitaines d'un petit peu tous les dangers que les enfants peuvent courir, des précipices, etc. Et il y a beaucoup d'êtres surnaturels dans lesquels on ne croit plus à la fin du 19e, mais dont on connaît la légende. Et si on n'y croit plus, mais qu'on connaît la légende, ça peut servir de croque-mitaine. Dès que la légende ne sera plus connue, le croque-mitaine ne servira plus à rien, parce qu'il faut savoir. Donc il y a des fées croque-mitaines, dont on dit qu'elles battent les enfants avec des ribères, des algues, à Saint-Cast par exemple, dans les Côtes d'Armor. Le croque-mitaine naît de ça, et bon, il y en a tout un tas, j'en ai des centaines de croque-mitaines, rien qu'en France, pour que les enfants ne s'approchent pas de l'eau.
Alors, Marie-Charlotte Delmas, dans votre dictionnaire de la France merveilleuse et de la France mystérieuse, édité chez Omnibus, le Moyen-Âge rejoint l'actualité, c'est qu'on n'a pas le droit de chasser le dimanche. Et si on le fait, il nous arrive des bricoles.
On a le droit de rien faire le dimanche. C'est le jour, ça c'est l'Église. Il y a toute une série de tabous. Le vendredi, on ne commence rien. C'est le jour de la mort du Christ. Le dimanche, on ne travaille pas, Dieu a fait la terre, machin, et s'est reposé le septième jour. Et on décide que ce septième jour, ce sera le dimanche. Donc on ne fait rien et surtout on ne fait pas de choses qui relèvent du loisir. Oui, oui, il y a un tabou et vous faites allusion aux seigneurs qui sont punis lorsqu'ils chassent le dimanche, qu'ils vont rejoindre ces fameuses chasses infernales qui sont des hordes de damnés qui traversent le ciel, dont George Sand disait qu'il y en avait une différente par canton, ce qui est peut-être pas sûr, mais en tout cas, il y en a, et elles portent différents noms d'une province, voire d'un canton, des fois, à l'autre de la France. Vous avez la chasse galerie, par exemple, qui est une chasse qu'on va retrouver en Vendée, en Loire-Atlantique, où l'on dit que c'est le seigneur galerie, dont on ne sait pas trop qui c'est, hein, qui aurait poursuivi un cerf un dimanche, qui l'aurait chassé, alors pendant la messe, hein, bien entendu, et donc, du coup, qui se retrouve puni par Dieu, à être damné, donc à chasser éternellement, soit sur terre, soit dans le ciel, puisque ces chasses sont soit aériennes, soit terrestres.
Marie-Charlotte Delmas, auteure de La France mystérieuse et de La France merveilleuse, éditée chez Omnibus. Nous allons continuer de parler de ça avec vous. Tout à l'heure, nous aborderons la mandragore.
Dawning, It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Velvet Underground, et c'était Sunday Morning qui date de 1967. Alors, à propos de retour en arrière, faisons-nous plaisir avec notre ami Jean-Marie Pelt, que les auditeurs de France Inter connaissent bien. Il évoque les peurs du Moyen-Âge qui ressemblent un peu aux nôtres, plus beaucoup d'autres, plus le poison. Alors, qui dit poison, dit mandragore.
La mandragore, sa racine évoque vaguement la forme humaine, deux jambes en tout cas, elle produit des effets puissants sur le cerveau, des délires et des hallucinations. Au Moyen-Âge, la mandragore fait peur, très peur. Elle est le petit homme planté, seules quelques personnes osent l'aborder. Il est très dangereux de la récolter, de l'arracher, car elle pousse alors un cri. Et qui entend ce cri est condamné à mort. C'est pourquoi on la fait arracher par des chiens, qu'on en accroche à la plante et qui vont la tirer hors de terre. Et elle avait bien sûr des propriétés réputées puissamment aphrodisiaques. Elle était par excellence une des quatre plantes qui entraient dans les onguents et dans les philtres des sorciers et des sorcières. Cette pommade pénétrait alors par ses substances actives très rapidement dans le sang et très vite elle produisait son effet. Un délire avec la sensation de tomber ou la sensation de s'envoler. C'est ça le sabbat des sorcières. Les sorcières d'ailleurs utilisaient un balai dont elles enduisaient de pommade l'extrémité du manche. Ensuite ce manche pénétrait le vagin de la sorcière. Et la sorcière avait l'impression de chevaucher sur ce balai et de s'envoler par le délire typique que produisent ces substances.
Voilà, c'est un document INA 1984. Voilà l'interprétation de Jean-Marie Pelt. Bernadette Bricou nous avait dit, alors c'était pas aussi précis que Jean-Marie Pelt, mais que parfois les sorcières pouvaient enduire le balai d'une pommade comme ça, un petit peu aphrodisiaque, et puis qu'elles se mettaient à cheval dessus. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, dans votre dictionnaire de la France mystérieuse, Marie-Charlotte Delmas, édité chez Omnibus, il y a un très très joli dessin de mandragore, page 446. C'est un dessin qui date de 1854.
C'est une reproduction d'une racine de mandragore qui effectivement fait partie de ces fameuses plantes dont on a imaginé qu'elles avaient pu rentrer dans la composition d'imaginaires onguents, etc. Le problème avec la sorcellerie, c'est que la documentation sur laquelle nous pouvons travailler, c'est une documentation des inquisiteurs et des démonologues eux-mêmes, qui font avouer aux sorciers qu'ils vont martyriser leurs fautes, leurs recettes, etc., sous la torture. Donc on leur fait avouer absolument n'importe quoi. L'histoire du balai est assez tardive, c'est un dessinateur qui va mettre dans un petit manuscrit, qui va mettre la première sorcière sur une balai. Dans les traditions populaires, on a effectivement le balai, mais on n'a pas que le balai. On a tous les animaux du diable, elles s'envolent sur un âne, sur un bœuf, sur je ne sais trop quoi, un cochon. Et il faut quand même savoir que vers la fin du XVIe siècle, il y a un homme, Jean Vierre, le fameux Vierus. Il a republié la série de tous les démons qui existaient et qui a été le premier à défendre les sorcières et à dire que tout ça, c'était une espèce d'hystérie, qu'elles étaient malades, mais qu'il fallait donc pas les brûler, qu'il fallait pas les punir. Il s'est fait mal voir par tout le monde.
Parce que quelle est la définition de la sorcière Marie-Charlotte Delmas? C'est pas juste quelqu'un qui connaît les plantes?
Bon, la sorcière, elle existe dans l'Antiquité gréco-romaine. C'est une femme, ou le sorcier, la sorcellerie, c'est de la magie privée par rapport à la magie publique. Alors, les magies publiques, on les connaît bien, y compris dans l'Antiquité. Les magies privées, domestiques, on les connaît beaucoup moins. Donc voilà, la sorcière, elle va faire des potions, c'est privé, c'est pas les grands sacrifices aux dieux, etc. Elle ne va être associée au diable qu'assez tardivement. Ça va commencer vers le 13e, 14e siècle. C'est là qu'elle va changer de statut, parce que jusque-là, elle faisait des potions, elle est parfois sage-femme, elle connaît des secrets.
Un peu pharmacien. Quoi.
Voilà, il y a que lorsqu'elle diffuse des poisons qu'elle va être condamnée, parce que là, elle commet un délit. Le problème, c'est que quand il va falloir trouver des boucs émissaires et des coupables à la famine, à la peste et tout ça, on va se tourner tout de suite vers le diable. Et on va commencer à diaboliser un certain nombre de choses, un certain nombre de femmes, savoir que ces femmes aussi, elles avaient, dans certains cas, commencé à s'occuper des choses en l'absence des hommes qui étaient dans les guerres, qui mouraient et tout ça, elles commençaient à s'occuper des affaires publiques, on va dire. Et puis, il y a les premiers médecins après qui arrivaient, les premiers avec chapeau pointu, ce chapeau pointu qu'on mettra aussi sur les sorcières. Donc, tout ça, c'était assez dérangeant. Et tout ça fait partie des causes multiples qui vont entraîner ces centaines de milliers de personnes brûlées en Europe pendant cette fameuse Renaissance et au début du XVIIe siècle.
Ce qui est étonnant, c'est que les gens qui ont le savoir maintenant, au XXIe siècle, XXe siècle, XIXe siècle, Marie-Charlotte Delmas, on les respecte, même on met assez peu en doute leur savoir. On vénère le médecin, on vénère le professeur, alors que j'ai l'impression que l'époque dont vous parlez, les sorcières, justement, qui connaissaient les herbes, qui connaissaient la médecine, elles ont été brûlées. Comme si le fait d'avoir la connaissance les rendait suspects, alors que nous, c'est le contraire.
Oh, mais c'était pas... quand on traitait n'importe qui de sorcière sur simple dénonciation. On n'a pas brûlé les femmes qui faisaient les remèdes. On a brûlé n'importe qui. C'est-à-dire qu'il suffisait dans le village... Des fois, il y a des villages où la moitié de la population s'est trouvée dénoncée et a été soit emprisonnée, mais torturée. Comme on leur faisait avouer des choses horribles sur la torture, bah forcément, voilà, elles avaient fait un pacte avec le diable. On n'a jamais retrouvé de pacte. On leur enfonçait des grandes aiguilles dans la peau pour voir s'il y avait les traces du diable, tout ça, si ça faisait mal ou pas mal. Enfin voilà. Donc non, c'était des gens très ordinaires qui n'étaient pas du tout,
qui n'étaient pas des grands savants.
Voilà. Et les sages-femmes de village, il fallait qu'elles aient la validation du curé de la paroisse.
Ah bon. Qui s'y connaissait en accouchement, le curé.
Ah, il ne connaissait pas grand-chose, mais tout ça, c'était...
C'est lui qui validait.
Oui, tout ça, c'était très réglementé. Et...
À propos de torture, vous parlez des dents et des soins qu'on apportait aux dents. On faisait le tour de la dent avec un clou et puis on plantait le clou dans un mur, on le mettait dans la terre.
Oui, il y a toute une série comme ça de remèdes pour les dents. Celle dont vous parlez, c'est le procédé du transfert qui se fait aussi pour d'autres maladies. C'est-à-dire, on entoure ou on fait toucher l'endroit qui est malade à un clou ou à une ficelle. Et puis ensuite, le clou, on le plante dans le mur. La ficelle, on l'attache à un arbre. C'est-à-dire qu'on va transmettre sa maladie ailleurs. On peut aussi mettre le clou dans un œuf au milieu d'un carrefour. On transmet à l'œuf. Si quelqu'un le ramasse, il récupère la maladie. C'est super. C'est un procédé de transfert. Mais sur les dents, il y a mais vraiment une quantité de remèdes, parce qu'on pensait quand il y avait une carie, il devait voir le nerf affleurer et il pensait qu'en fait, il y avait un ver dans la dent. Donc on donnait à manger à ce ver, enfin c'était horrible, ça devait faire mal, j'ai mal rien que d'en parler.
Et la petite souris ?
Et la petite souris, alors il se trouve que comme la souris a de très jolies dents, les enfants quand ils naissent on leur mettait des colliers pour éviter les maux de dents, et souvent dans ces colliers il y avait des dents de loup ou des dents de rat. C'est-à-dire que la dent va soulager la dent. Et la petite souris, eh bien, effectivement, comme les souris avaient des belles dents, les parents mettaient, mais c'est un rite magique au départ, on prend la première dent de l'enfant et on la met dans le trou du mur où passe une souris ou le trou d'un rat. Pour l'anecdote, Sainte Apolline, qui est une martyre à qui on aurait brisé les dents, était à chaque fois, lors de ses remèdes, invoquée avec des petites prières, des petites formules magiques à Sainte Apolline. Et à l'heure actuelle, en Ariège, à Lézade-sur-Lèze, il y a encore un rituel que le curé pratique avec une relique qui, soi-disant, pardon, mais est une dent de Sainte Apolline qui aurait été rapportée par un conte de fois. Et les parents font la queue, on frotte la gencive de la dent avec la dent de Sainte Apolline.
Voilà. Je comprends. Je fais ça, mais cela dit, quand on dit à un enfant « tu t'es fait mal, je fais un bisou, t'as plus mal » ou alors « je souffle, t'as plus mal », ça...
c'est magique.
Il pleut des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer, le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord, avis de grand frère à la fenêtre. Mer 5 à 7, forcissant dans ta tête, des crêtes d'écume au plafond. Un orage dans le salon, dans la salle de bain du bas, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous, la main de Dieu est sur nous, les comètes géantes arrivent, le canapé dérive. Dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. L'année la plus chaude de tout le temps, l'année la plus chaude de tout le temps. L'année la plus chaude de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. Tout le temps,
L'année la plus chaude de tous les temps, c'était Raphaël.
Noël Bréham, état d'esprit, sur France Inter.
Le dictionnaire de la France mystérieuse et le dictionnaire de la France merveilleuse, deux volumes édités chez Omnibus, où vous racontez Marie-Charlotte Delmas, les croyances populaires, les superstitions, les rites magiques, la sorcellerie, les apparitions, les lieux enchantés, les êtres fantastiques. Vous racontez comment c'est apparu, comment on vivait ça, les différences entre les régions. Et pourtant, à propos de régions, je suis bretonne, je ne savais pas qu'il y avait une ville engloutie en Bretagne, Is, Y-S. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Alors, il y a beaucoup de villes englouties, de manoirs englouties, d'églises englouties. Elles sont englouties pour deux raisons. La première, c'est que les gens sont pervers. C'est ce qui va se passer à Is. À Is, il y a un roi qui est un roi, qui est le roi Gralon, qui reçoit la visite de Saint Guénolée, dit-on. Et puis un jour, Saint Guénolée constate quand même que les gens sont excessivement pervers, mauvais, y compris d'ailleurs la fille du roi Gralon, Ludahu. Et ils sont tellement mauvais que finalement ils vont être punis et Dieu avertit Saint Guénolée d'avertir aussi le roi de partir parce que la ville va être submergée et tous les habitants vont mourir et donc voilà, le roi Gralon s'en va et alors cette ville d'Is sur toute une grande partie du littoral du Finistère, chaque village pense l'avoir sous l'eau. On a dû trouver des restes archéologiques et dire, ah oui, c'était là, Is, annoncé là, notamment dans la baie de Douarnenez.
Une espèce d'Atlantide breton.
Oui, oui. Mais il y en a énormément dans des lacs, des étangs. Il y a beaucoup de légendes ou des cloches, même englouties.
Ah oui, vous
il y a
dites qu'on les entend.
De, qu'on entend sonner à minuit les cloches des églises des villes englouties. Il y a beaucoup de légendes autour de ça. Donc, les habitants mauvais ou alors, deuxième raison, manque de charité, manque d'hospitalité.
Ah, manque d'hospitalité, tiens.
Un mendiant, souvent Dieu lui-même ou un saint, se promène, demande de l'hospitalité, on ne lui donne pas l'hospitalité, et sauf une personne au bout du village qui va lui donner un bout de pain, un petit peu de soupe. En punition, tous les autres vont être engloutis.
Il faudrait bien de s'acheter des combinaisons de plongée parce que ça risque de nous arriver. Et pour finir, Marie-Charlotte Delmas, puisque nous sommes à la veille du mois de juin, il y a un grand mythe, c'est le feu de la Saint-Jean. Il y en a des choses dans le feu de la Saint-Jean, les pierres qu'on met autour, qui rendent les champs fertiles, qui soignent les herbes qu'on fait brûler.
La Saint-Jean, c'est vraiment la fête qui a son compte le plus de croyances, de superstitions, de rites magiques, de protection, de guérison, etc. Je pense que c'est la fête qui arrive en tête de toutes les autres fêtes, y compris les fêtes chrétiennes. Et effectivement, le feu de la Saint-Jean, il est prophylactique, il est guérisseur. Dès qu'il est un petit peu apaisé, on fait sauter les gens au-dessus pour l'amour, on fait sauter les bêtes pour qu'elles se portent bien, on fait sauter les parents avec les bébés dans les bras. Enfin, le feu est excessivement important. On disait même qu'à Paris, au XVIe siècle, on brûlait encore des chats dans le feu de la Saint-Jean, dans des mannequins d'osier, etc. Parce que les chats, comme les rats, comme des fois certains renards, infestaient beaucoup les villes. Et donc, c'était probablement une façon de se débarrasser. On en prenait un qui payait pour tous les autres. Et magiquement, par contagion, ça devait affecter les autres. La magie par contagion, c'est aussi une magie très efficace. Il y avait les herbes de la Saint-Jean, c'est-à-dire c'est à la Saint-Jean que toutes les herbes médicinales ou les herbes de protection, de guérison, etc., doivent être recueillies parce que c'est là qu'elles ont le plus fort apport magique en elles.
Donc, la Saint-Jean est une date très importante et c'est quand finalement?
Alors, c'est autour du solstice d'été, donc au 21 juin, parce que ça durait 2-3 jours, que toutes les festivités magico-religieuses se déroulaient à la Saint-Jean.
Marie-Charlotte Delmas, dictionnaire de la France mystérieuse, dictionnaire de la France merveilleuse. Ce sont deux volumes, en fait, d'un même dictionnaire où vous nous racontez tout ce à quoi croyaient les anciens. Et vous avez écrit quelque chose que je trouve joli au début d'un de ces deux dictionnaires. Vous avez écrit « Loin de moi l'idée de porter un quelconque jugement sur ses croyances. À chacun sa vision du monde, de l'univers, de la vie et de la mort. » Les religions officielles comportent, elles aussi, leur lot de mystères. Et c'est dans cette dimension cachée, plus ou moins vaste, en fonction des connaissances de chaque époque, que depuis la nuit des temps, tous les peuples de la Terre créent un monde merveilleux. L'imagination permet de combler les lacunes que la science n'a pas encore expliquées. Je trouve que c'est une jolie définition entre sagesse, entre rigueur, et en même temps, on sent que ça vous plaît, ce merveilleux et cette poésie.
Ah oui, 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 bien sûr, parce que vous l'avez dit, c'est excessivement poétique, ce merveilleux. Voilà. Mais ne croyez pas, j'ai les deux pieds sur terre quand même, ouais. Donc il n'y a pas de souci.
Merci Marie-Charlotte Delmas d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci voilà. À vous.
Cet état d'esprit a été réalisé par la sorcière Simone de Poux, préparé par l'autre Emmanuel Fournier. La programmation était de Muriel Pérez et la prise de son de Merlin Pelot. Dimanche prochain, nous parlerons de la vie extraordinaire de certains animaux avec l'historien Éric Baratet. Pour l'heure, je vous laisse avec Brigitte Patient. Elle viendra après le journal et elle nous emmènera à 7 pour le festival Images Singulières. Mais vous tous, n'oubliez pas de venir faire un tour sur le site d'État d'Esprit. Vous y verrez des choses curieuses.